Bonjour. Aujourd'hui, nous offrons une section de textes à tirer des médias suivants. Urbania, L'Itinéraire et Québec Science. Au programme, depuis quand tout le monde est en situationship? Le chien cave et le statut Moai ont encore des secrets à révéler. Bonne écoute.
Depuis quand tout le monde est en situationship, splendeur et misère des relations floues. Un texte de Laïma A. Gérald, paru le 4 avril 2023 dans Urbania. On se voit depuis plusieurs mois, S et moi. Quand mes amis me demandent si on est en couple, je ne sais jamais quoi répondre. Oui, on se voit presque chaque semaine, on couche ensemble, on fait des activités, mais on n'a jamais vraiment défini notre relation. On y va au jour le jour. J'ai pas vraiment de mots pour nommer ce qu'on vit. Charlie, 26 ans. Eh bien, Charlie, j'ai le bonheur de t'annoncer que tu es en situationship. Ça veut dire quoi, situationship? Ce néologisme employé depuis quelque temps sur les réseaux sociaux et dans les conversations privées est fabriqué à partir des mots anglais « situation » et « relationship » ou « relation » en français. Ainsi, une « situationship » renvoie à un type de relation dont les termes n'ont pas été définis par les partenaires. Sans étiquette, sans engagement et sans durée ni perspective véritablement définie, la situationship dépasse les paramètres d'une amitié platonique sans pour autant relever du couple au sens traditionnel. À mon sens, le terme est un peu moins réducteur que ce que l'on appelait les « back burner relationships », soit les relations au second plan, il y a une dizaine d'années. Une situationship renvoie à un type de relation dont les termes n'ont pas été définis par les partenaires. La situationship se situe sur le spectre des relations romantiques, non conjugales, quelque part entre le « friends with benefits », « amis avec bénéfices » ou le « fuck friend » et la relation amoureuse traditionnelle plus officielle. Explique Myriam Dagouzan-Bernier, sexologue, fondatrice du blog sexo-féministe La tête dans le cul et autrice de Tout nu. Le dictionnaire bienveillant de la sexualité qui utilise volontiers l'expression « flou artistique » pour faire référence aux « situationships ». C'est un type de relation qui varie selon les personnes qui l'expérimentent et qui comporte différents degrés d'engagement, de routine, de fréquence, de romance, d'implication. On ne se commet pas et ça relève surtout du moment présent. Si cette tendance sociale de plus en plus courante peut sembler difficile à cerner, elle résonne très fort auprès des personnes qui l'ont expérimentée. Enfin, un mot pour définir l'indéfinissable, diront certaines, à propos de ce phénomène qui n'est pas sans rappeler celui de l'amour libre des années 1970. Un phénomène d'hier pour un mot d'aujourd'hui. Bien que le concept ne date pas de la dernière pluie, le terme « situationship » se taille bel et bien une place dans notre vocabulaire et le phénomène est de plus en plus présent. D'après une enquête menée par l'application de rencontre Hinge, 34% des 12 000 utilisateurs-utilisatrices interrogés ont affirmé s'être retrouvés dans une « situationship » entre 2020 et 2021. Qu'est-ce qui explique le bond en popularité de ce nouveau modèle relationnel? je trace un parallèle entre la multiplication des situationships et la tendance au relation shopping, c'est-à-dire la propension à magasiner des relations induites et encouragées par les applications de rencontres, poursuit Myriam Dagouzan-Bernier, qui mentionne que certaines de ses clients-clientes aiment adopter l'étiquette de « situationship » alors que d'autres préfèrent s'en passer. Quand on swipe compulsivement d'un profil à l'autre, il est possible qu'on se retrouve face à une angoisse du choix. Ça peut créer une réticence à se commettre à une seule personne. On est donc tenté de garder toutes ses options ouvertes. Vous écoutez « Depuis quand tout le monde est en situationship? Splendeur et misère des relations floues », un texte de Laïma A. Gérald, paru le 4 avril 2023 dans Urbania. Mais n'est-ce pas un paradoxe que d'apposer un terme et une étiquette sur un concept qui tient justement de la non-définition? Dans notre société, la norme, c'est d'être en couple, affirme l'experte, également chroniqueuse à moteur de recherche sur Ici Première. Donc, d'avoir recours à un terme qui englobe le flou peut aider à nommer une situation qui sort de cette norme et que l'entourage comprend peut-être mal. Pour certaines personnes, un terme comme ça facilite les communications. Pour la sexologue clinicienne ainsi que selon plusieurs autres spécialistes dont j'ai pu lire les propos sur le web ces derniers mois, les réseaux sociaux auraient également contribué à l'émergence de cette nouvelle pratique. Si l'on en croit leur analyse, de plus en plus de personnes ressentiraient une pression dans le fait d'afficher publiquement leur engagement. Cela les conduirait, par conséquent, à vivre des relations plus libérées et non officielles, peut-on lire dans le magazine Grazia qui, toutefois, positionne d'emblée les situationships comme toxiques. D'ailleurs, le fait de prendre son temps volontairement pour afficher une nouvelle relation sur les réseaux sociaux porte un nom, le « soft launch » ou « lancement en douceur ». Cette pratique consiste à faire subtilement comprendre que l'on a trouvé l'amour à l'aide d'indices saupoudrés sur les réseaux sociaux, comme une photo prise de loin ou de dos, un commentaire équivoque ou encore un emoji de cœur déposé sous une publication. Un peu comme quand j'avais publié cette story sur Instagram afin de « soft launcher » ma nouvelle relation en février 2022, sans même savoir qu'il s'agissait d'un concept éprouvé. Liberté, j'écris ton nom. Je ne savais pas que ça s'appelait comme ça, mais oui. Ce que je vis est de l'ordre de la situationship, me confie Geneviève, 29 ans, à qui je suis surprise d'apprendre le terme en début d'entrevue. Je connais M depuis environ 2 ans. On se voit quand on est disponible, on fait l'amour, on écoute des films, on dort collé, on se confie. Mais rien n'est officialisé, on n'est pas un couple et on n'est pas exclusif. C'est vraiment une affaire de moment présent. Quand je lui demande comment elle se sent dans cette relation, la jeune femme est sans équivoque. « Oh my God, tellement bien !» Je ne suis pas émotionnellement disponible pour être en couple sérieux en ce moment. Mais je n'aime pas tant les one nights. Cette espèce d'entre-deux entre l'amitié et le couple me convient super bien. Et à M aussi. On fait des check-in de temps en temps pour être sûr qu'on est encore sur la même longueur d'onde. Ça durera tant que ça durera, mais à date, ça va bien. Au fil de notre échange, Geneviève me confie que depuis environ 3 ans, elle se pose beaucoup de questions sur la monogamie, sur sa vision des relations et sur ce qu'elle recherche sur le plan amoureux. Vous écoutez « Depuis quand tout le monde est en situationship? Splendeur et misère des relations floues » un texte de Laïma A. Gérald, paru le 4 avril 2023 dans Urbania. ce que j'aime de cette situationship, je vais adopter le terme, c'est que ça me permet d'avoir une forme de stabilité émotionnelle, de la tendresse et de l'intimité avec une personne que je connais et qui me connaît, mais de conserver ma liberté et d'apprendre à me connaître. L'autre fois, une amie m'a dit que je voulais le beurre et l'argent du beurre, mais je ne vois pas en quoi c'est une mauvaise affaire si tout le monde est consentant et confortable. Alors que bon nombre de médias et autant de personnes condamnent les situationships, les qualifiant de toxiques, dangereuses ou piégées, d'autres, comme Geneviève et Charlie, cités brièvement en début d'article, en perçoivent plutôt les bénéfices. Justement, dans le dernier rapport Year in Swipe 2022 de Tinder, la tendance numéro un révèle que les jeunes célibataires considèrent la situationship comme un statut relationnel valide. Le Time magazine va même jusqu'à tirer une conclusion. La situationship est l'avenir du dating. Ce besoin de flexibilité et d'ouverture indique une tendance qui pourrait être là pour durer. Comme expliqué dans le média américain, plutôt que de voir les situationships comme un piège à éviter, une forte majorité de célibataires est d'avis que certaines relations n'ont pas besoin d'être définies de manière rigide pour être épanouissantes. Ainsi, ce besoin de flexibilité et d'ouverture indique une tendance qui pourrait être là pour durer. Ce constat a d'ailleurs mené à la création d'objectifs relationnels sur Tinder, un espace où les utilisateurs-utilisatrices peuvent choisir parmi plusieurs options. Cherche une partenaire de vie, cherche du long terme, cherche du long terme, mais ouverte au court terme. Cherche du court terme. Cherche du court terme, mais ouverte au long terme. En réflexion. Les utilisateurs-utilisatrices peuvent alors cocher la case qui correspond le mieux à leurs besoins et sont invités à confirmer ou à modifier leur choix chaque semaine. Un bel effort de transparence et de flexibilité. Une situationship à éviter à tout prix? Quand on tape le mot situationship sur Google, ce sont plutôt les inconvénients et même les dangers de la pratique qui apparaissent sur la page d'accueil. Des titres du genre « Êtes-vous en situationship et comment vous enfuir? » Situationship, quelle est cette nouvelle pratique amoureuse toxique à fuir de toute urgence? Ou le genre de relation dans laquelle personne ne veut être s'enfile sur le moteur de recherche. Pourquoi cela? Le danger potentiel des situationships, c'est quand les personnes impliquées ne veulent pas ou ne veulent plus la même chose. Par exemple, si l'une ou l'autre développe des sentiments et qu'un rapport de force inégalitaire se développe, ça se complique. Fait valoir la sexologue Myriam Daguzan-Bernier. Elle illustre son propos en donnant l'exemple fictif d'un duo où une personne A souhaiterait officialiser la relation, mais que la personne B préférerait rester dans le flou, ce qui serait susceptible de provoquer de la souffrance et de la confusion chez A. Forte de son expérience en clinique, Myriam Daguzan-Bernier affirme que la clé de résolution d'une pareille situation se trouve dans des termes que l'on ne répétera jamais assez. La communication et la transparence. Il faut donner l'heure juste et exprimer ses limites. C'est sûr qu'une relation qui est intrinsèquement définie par son flou et l'absence de définition, ça peut être à double tranchant. Les partenaires ne se doivent rien, se gardent une porte ouverte, explorent peut-être d'autres liens, mais quand ils n'ont pas ou plus les mêmes attentes, c'est délicat. Surtout s'ils ne s'en parlent pas, reconnaît la sexologue. et quand les deux personnes ne sont plus sur la même page, que l'une veut définir ou modifier les paramètres, mais pas l'autre, ça peut effectivement créer des blessures. Mais ceci vaut pour tous les types de relations, même les plus traditionnelles. Pour l'experte, la multiplication des nouveaux termes qui émergent dans la sphère du dating révèle la présence grandissante de questionnements sur la monogamie. Ça montre que de plus en plus de gens ne perçoivent plus le couple comme une fin en soi, croit-elle, en ajoutant que la pandémie de COVID-19 a parallèlement incité certaines personnes à revoir leur vision des relations et à questionner profondément leurs attentes et leurs besoins conjugaux et romantiques. En somme, non, les situationships ne sont pas pour tout le monde. Si certaines relations flottantes sont bel et bien inégalitaires et créent plus de confusion que de bien-être, d'autres sont plutôt un moyen d'explorer, d'apprendre à se connaître et de créer des connexions intimes et significatives sans s'engager pour autant, du moment que tout le monde est sur la même page et ressent l'espace nécessaire pour s'affirmer. Parfois, c'est possible de voir très clair dans les zones de flou. C'était « Depuis quand tout le monde est en situationship? Splendeur et misère des relations floues », un texte de Laïma A. Gérald paru le 4 avril 2023 dans Urbania.
Chronique humour, c'est encore drôle. Un texte de Christian Vanasse, humoriste, paru dans l'itinéraire du 1er avril 2023. Les chiens cavent. Quand l'itinéraire m'a informé que le thème du mois serait les chiens, je me suis pris la tête à deux mains puis roulé des yeux tellement loin que j'ai vu ma nuque par derrière. Les chiens? Mais ils sont tellement caves! Les plus bêtes des animaux, les crétins de la création, la preuve, ils font confiance à l'humain. Ça devrait tout de suite les disqualifier comme espèce intelligente. Ils sont niaiseux. Tu leur garoches un bâton, ils le ramènent. N'importe quel autre animal te regarderait avec une face de « what the fuck ». Les chiens, aucun amour-propre, aucune estime de soi, puis l'ego d'une éponge de mer, fait qu'il te ramène le bâton en souhaitant juste une chose, que tu le relances. Fais semblant de le lancer, ils vont courir comme des épais, en cherchant partout pendant que tu te fous de leur gueule dans des vidéos TikTok. Après, ils vont revenir vers toi, sans aucune malice, tout contents d'être heureux, la langue au vent, puis la graine à l'air. Cerveau de raisin sec qui court après sa queue, dévore tes meubles, laisse du poil partout, gruge tes souliers, pète, rote, salive, grogne, jappe, puis des fois, il peut faire tout ça dans le même 30 secondes. Peut même pas aller pisser tout seul, puis faut ramasser ses crottes avant qu'il ait l'idée de les manger. Puis la bouffe. Remplis le bol d'un chien, il va le vider jusqu'à en vomir, puis tout manger en pensant que c'est du dessert. Ça coûte cher. Ça pue. Bref, tous les chiens sont caves, puis je les déteste. Sauf, évidemment, le mien. C'est ça l'affaire. Suffit que t'en aies un de correct, puis ça change tout. Bon, je dis correct, mais en même temps, il fait tout ce que je reproche aux chiens. Mais comme c'est mon chien, c'est pas la même affaire. Aussi cave que tous les autres, mais parfait pour moi. Je n'avais jamais eu de chien avant. Je ne comprenais pas ce que c'était, ce que ça impliquait. Tout d'un coup, il y en a un qui est arrivé dans ma vie, qui a grandi avec moi, ma blonde puis mon fils. Et on a appris à se connaître. En fait, j'ai autant appris sur les chiens que sur les humains. La patience, l'écoute, l'empathie. J'ai compris que s'ils grugent des pieds de table par ennui, je n'avais qu'à leur lancer un bâton pour qu'ils soient heureux et pensent à autre chose. J'ai compris que si je lui donne à manger, lui fournis un toit et des besoins de base, il n'allait pas me mordre ensuite. Je ne peux pas en dire autant de certains humains. Un chien ne juge pas. Un chien t'accepte pour ce que t'es. Il se fout de ton statut social, de ce que tu portes ou de ce que t'as l'air. Tout ce qui lui importe, c'est comment tu vas. C'est bien simple. Il t'aime plus qu'il ne s'aime lui-même. Oui, il jappe. Mais toi aussi, tu l'as entendu, le drôle de bruit dans la cour la nuit, puis ça te fait quand même du bien que ton chien soit près de toi. Parce que le chien est toujours là quand t'en as besoin. Quand t'es triste, il pose sa grosse truffe frette sur tes genoux en soupirant, puis te regarde avec ses grands yeux d'imbécile heureux, l'air de dire « Viens sauter d'un feuille avec moi, tout va bien aller. » Après de longues années passées auprès de nous, notre chien nous a doucement quittés l'automne dernier. Il a fermé ses grands yeux dans nos bras, heureux comme au premier jour, nous laissant dans une grande tristesse, mais aussi une immense joie de l'avoir connu et l'envie de dire, comme l'auteur Charles You, « Si je pouvais être la moitié de mon chien, je serais deux fois l'homme que je suis. » C'est pourquoi je suis de tout cœur avec ceux et celles qui tenteront de garder leur animal de compagnie dans leur appartement ce printemps, de nos sœurs et nos frères dans la rue qui dorment aux côtés de leur animal et de tous ces humains qui pensent qu'ils ont le meilleur chien du monde. Parce qu'ils ont raison. C'était Chronique Humour, c'est encore drôle, un texte de Christian Vanasse, humoriste, paru dans l'itinéraire du 1er avril 2023.
Les statues Moai ont encore des secrets à révéler. Un texte de Québec Science, paru le 31 mars 2023 dans le magazine Québec Science. Une nouvelle statue a été découverte sur l'île de Pâques. On connaît encore peu de choses à son sujet, mais la trouvaille ouvre de nouvelles perspectives sur l'histoire de cette île mystérieuse. Tu as sûrement entendu parler de l'île de Pâques, cette mystérieuse île isolée au milieu du Pacifique. Sais-tu que cette île polynésienne s'appelle comme cela car elle a été découverte en 1722, le jour de Pâques? Cette île est surtout connue pour ses immenses statues pouvant mesurer jusqu'à 10 mètres de haut. Toutes sortes d'histoires farfelues tournent autour de ces statues, impliquant notamment des extraterrestres. Mais que savent vraiment les archéologues sur ces fascinants monuments? D'abord, que ces immenses statues, appelées Moai, sont faites de roches volcaniques. Elles ont une forme humaine. Certaines sont encore debout, mais plusieurs sont allongées sur le sol. Certaines n'ont que la tête qui dépasse du sol. Pourtant, elles ont tout un corps avec des bras et des mains. La majorité des statues a été sculptée dans la carrière du volcan Ranuraraku à l'est de l'île. Il en existe près de 1000 sur l'île. Une grande partie se trouve encore dans la carrière du volcan à différents stades de fabrication. D'autres ont été amenées dans d'autres parties de l'île, regroupées sur des plateformes cérémonielles appelées Aou. Ces terrasses se trouvent près des côtes et les statues tournent le dos à la mer et regardent vers l'intérieur de l'île. À quoi servaient ces statues? Pourquoi tant d'efforts pour les sculpter et les déplacer? Les Moai auraient été sculptés entre le 13e et le 15e siècle par le peuple autochtone Matamua, ce qui signifie « ceux d'autrefois ». Ces statues seraient dédiées au culte des ancêtres ou à des cultes religieux. Des découvertes plus récentes montrent que leur emplacement est lié aussi aux emplacements des anciens points d'eau potable de l'île. Il reste donc beaucoup de zones d'ombre autour des Moai et de l'histoire de cette île. Or, une nouvelle statue vient d'être découverte. Qu'a-t-elle de particulier? Elle a été trouvée couchée sur le côté au fond d'une lagune asséchée en plein dans le cratère du volcan. L'abaissement du niveau de l'eau ces dernières années a permis de trouver la statue, qui était immergée jusqu'à maintenant. Or, les autres statues se trouvent soit dans la carrière sur la pente extérieure du volcan, soit près des côtes. Cet emplacement est donc vraiment unique. De plus, avec son 1,60 m, ce Moai est plus petit que les autres. Quel était donc son rôle et pourquoi s'est-il retrouvé là? La prochaine étape est une datation au carbone 14 pour savoir quand il a été sculpté. L'île de Pâques cache encore bien des mystères. C'était « Les statues Moai ont encore des secrets à révéler », un texte de Québec Science paru le 31 mars 2023 dans le magazine Québec Science.
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalm.visevoix.com. Cette émission est rendue possible grâce à Robert Chartier et Gilbert Lepage à la lecture, Aya Jennifer Ada et Francine Thériault à la recherche, Nicolas Wartman à la présentation et au montage.